France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bienvenue sur France Musique. Tout de suite, Musique Matin, le 7-9 de Clément Rochefort. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, dernier jour de la semaine. Nous sommes le vendredi 23 juillet et j'imagine que certains d'entre vous s'apprêtent à partir en vacances ou en week-end, ou peut-être pas, peu importe. Ce matin, nous on vous emmène de nouveau au cinéma, mais au cinéma de votre jeunesse, de votre enfance, celui d'Yves Robert et de Gérard Houry, puisque j'aurai le plaisir de recevoir tout à l'heure à 8h30 le compositeur Vladimir Kosma. Mais avant, à 7h40, les news et un reportage consacré à la rencontre entre la science et la musique au festival Image Sonore. À 7h50, a gagné le dernier disque du Quatuor Modigliani. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals nous entraînera dans le Val-de-Loire, au festival de la Clé des Portes. À 8h25, l'été des frères Jacques. Mais tout de suite, on commence avec une grande fresque du cinéma de l'âge d'or hollywoodien, L'Aigle des Mers de Michael Curtis, dont Erich Wolfgang Korngold avait signé la musique en 1940. Une musique puissante, océanique, héroïque, tout ce qu'on aime et qui, dès les premières mesures, nous fait rêver et nous fait croire qu'on est les rois du monde. Bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique. Le début de la bande originale de The Sea Hawk, L'Aigle des Mers, une musique signée Erich Wolfgang Korngold avec l'orchestre symphonique de l'Utah sous la baguette de Varouyan Koyan. J'aime beaucoup cette musique et puis ça me plaît de me dire que peut-être ceux qui s'apprêtaient à appuyer sur le petit bouton du réveil en se disant « Allez, on se réveillera dans 5 minutes », eh ben c'est raté. Ils sont debout, c'est sûr. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h, presque 34 minutes. Le week-end approche, comme je le disais tout à l'heure. Et avec lui son lot de nouvelles émissions de l'été sur France Musique. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux amoureux du piano. Tous les samedis à 8h, Aurélie Moreau vous réveille au son des marteaux sur les cordes du piano, mais des marteaux au féminin. L'émission s'appelle Piano au féminin. Chaque samedi, elle vous fait découvrir des musiciennes d'exception, des pianistes venus des quatre coins du monde. La française Hélène Grimaud, la portugaise Maria João Pires, l'espagnole Alicia de la Rocha, la chinoise Yu Jiawang, la russe Elisabeth Leonskaya et j'en passe. Autant de portraits de pianistes chevronnés suivis d'une séquence consacré à de jeunes interprètes, des étoiles montantes, aux talents déjà éclatants. Piano au féminin, c'est tous les samedis de l'été à 8h.
Musique.
La Valenciana, la 7e des 12 danses espagnoles d'Enrique Granados, interprétée par Alicia de la Rocha et ses légendaires Petites Mains, une des pianistes à retrouver dans Piano au féminin tous les samedis avec Aurélie Moreau tous les samedis matins à 8h. Merci d'être avec nous ce matin, il est 7h39.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'heure de l'actualité musicale. Et pour commencer, retour sur l'affaire du professeur de violoncelle Jérôme Pernaud au Conservatoire supérieur de Paris. La décision est tombée vendredi 16 juillet, visé par deux signalements d'agression sexuelle, dont un concernant un mineur. Et suspendu depuis le 16 mars, Jérôme Pernaud a été réintégré près de 3 mois après la fin de l'enquête interne menée par le cabinet EGAE, fondé par la militante féministe Caroline Dehas. Il devra toutefois passer un entretien le 2 septembre. Émilie Delorme, directrice du Conservatoire, envisageant un licenciement. Mais selon le journal Marianne, les investigations internes laissent planer un doute quant à leur partialité. Dans une longue enquête, Marianne pointe du doigt des entretiens extrêmement dirigés. Des élèves et des professeurs interrogés dénoncent des comptes rendus modifiés ou tronqués de leur déposition. Dans certains cas, on me faisait dire l'exact opposé de ce que j'avais dit, dénonce un élève. Par exemple, ça ne m'a jamais mis mal à l'aise est devenu ça m'a mis mal à l'aise. Ils ont fait ça plusieurs fois. Marie-Thérèse Grisanti, violoncelliste, interprète et enseignante, a déclaré quant à elle, je me sens bafoué dans la parole qu'on m'a prêtée et si on me redemandait de témoigner, je refuserais sur le champ. Si le cabinet EGAE et la direction du conservatoire réfutent ces accusations sur la méthode, Jérôme Pernaud, joint au téléphone par Marianne, a fait part de son intention d'attaquer le conservatoire en cas de sanction en septembre. « Je ne suis coupable de rien, néanmoins le mal est fait », a-t-il déclaré. « La fuite dans la presse a été bien organisée et déjà j'ai subi une multitude d'annulations de concerts et de collaborations ». Du nouveau à la tête de l'Opéra de Bordeaux avec la nomination d'Emmanuel André à la direction générale du théâtre où il prendra la suite du chef Marc Minkowski, diplômé du Conservatoire supérieur de Paris et docteur en musicologie. Emmanuel André est l'actuel directeur du département concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris depuis 2014. Après une riche expérience à la salle Pleyel et à la Cité de la Musique, Emmanuel André prendra ses fonctions début septembre 2022. On ne chôme pas au Centre de musique baroque de Versailles. 900 nouvelles biographies ont été insérées dans la base de données des musiciens d'église en France à l'époque moderne. Nouvelles entrées en Alsace et en Lorraine, la région Bourgogne entièrement traitée. La 13e mise en ligne de Muséphrem vient de paraître, portant gratuitement et accessible à tous cette incroyable base de données à plus de 6800 notices de musiciens sur 52 départements plus Notre-Dame de Paris, grâce au travail d'un groupe d'historiens, de musicologues et de sociologues. Et puis enfin, direction la Bourgogne qui rayonne et vibre grâce au festival Images Sonores. L'événement bénéficie en ce moment d'un lieu exceptionnel, le Muséoparc d'Alésia, sur les vestiges du siège de Vercingétorix, un lieu hautement exploité puisque des conférences s'y tiennent et l'édifice sert de toile à une projection d'un jeu de lumière, une ambiance très branchée qui contraste avec les chants si calmes environnants, un contraste qui se distingue aussi dans la programmation de la musique classique et de l'électro, un reportage de Marie Jiquel.
Il fallait bien un cadre insolite pour accueillir cette programmation éclectique. Des DJs succèdent à des ensembles classiques et si l'on vient plus tôt dans la journée, on change fermement d'époque. Retour à l'Antiquité avec cet atelier de fabrication de flûtes de Pan animé par Christophe Pizzi.
Bienvenue à l'atelier Syrinx, flûte de Pan sur le... Image sonore. L'atelier consiste à réaliser en fait le geste originel de la création de cet instrument-là d'après la mythologie. Donc à partir de d'une canne brute en fait, avec des pierres de meule, avec différents de la ficelle, de la cire d'abeille, on réalise une petite flûte à 5 tuyaux en famille.
Notre flûte de Pan sous le bras, il est temps de retrouver l'ensemble qui ouvre la soirée, l'ensemble Ars Nova, qui explore les pièces contemporaines et minimalistes. Régis Campo, Terry Riley et Steve Reich sont au programme, un menu concocté par le directeur d'Ars Nova, Benoît Sidzia.
Comme les musiciens le rappellent très régulièrement, c'est un ensemble qui aime créer des expériences totales, on pourrait dire, qui allie scénographie, lumière, sonorisation. Les œuvres sont extrêmement importantes, le répertoire est extrêmement important, mais c'est le contexte de présentation de ces œuvres qui fait vraiment la typicité, je pense, d'Ars Nova.
« Serge Meyer, le directeur artistique d'Images Sonores, milite pour ce mariage des publics.
La première année, on avait un vrai public pour la musique classique, un vrai public pour la musique électronique. Et depuis cette année, les frontières ont disparu et on a un public qui vient et pour l'un et pour l'autre et qui aime cette transition en fait, de partir de musique assez douce pour finir sur de l'électro avec un peu plus de basse.
Et justement, les basses arrivent, notamment avec l'artiste électro Irène Dresel. Plus d'instruments classiques sur scène, mais des platines entourées de fausses fleurs. Mais le pont entre les deux genres existe bel et bien, selon Irène Dresel.
Forcément, oui, Steve Reich, Philip Glass et tout le courant américain minimaliste. Cette manière de faire de la musique répétitive avec des couches qui s'accumulent et qui mènent à une transe, c'est quelque chose qui porte en tout cas mes compositions. C'est aussi un peu comme ça que je l'ai fait. Pas tout à fait, mais j'en suis un peu inspirée.
Un spectacle revigorant qui réveillera peut-être le fantôme de Vercingétorix. Le directeur de l'ensemble Ars Nova l'espère.
Est-ce que le fantôme de Vercingétorix sera ce soir devant Ars Nova?
Vercingétorix, peut-être Stockhausen aussi, puisqu'on parle de musiciens qui ont pu inspirer une vague électro. Je sais pas, j'ai pas encore choisi si on était plutôt romain ou gaulois, mais en tout cas, si le fantôme est là, j'espère qu'il appréciera et qu'il dansera un petit peu avec nous.
Le festival Images Sonores se tient jusqu'à demain soir, samedi, et dès aujourd'hui, il change de lieu pour installer ses projecteurs, ses platines et ses pupitres au château de Bussy-Rabutin, toujours en Bourgogne. Et en parlant de musique et de science, si le compositeur britannique du début du siècle, Gustav Holst, avait pu embarquer avec Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale, aurait-il imaginé chacune des planètes du système solaire comme il l'a fait dans son grand poème symphonique « Les planètes » Allez savoir. Thank you. Vladimir Yurovsky à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Londres, c'était Mercure, un extrait des planètes de Gustav Holst par le Philharmonique de Londres. Donc, comme je le disais, il est 7h50, c'est l'heure de jouer et peut-être de gagner ce matin. Alors, à gagner aujourd'hui le disque Haydn, Bartok, Mozart du quatuor Modigliani. C'est un disque qui a pour but d'illustrer la liberté comme moteur de la créativité, la liberté des lumières qui infusent la musique de Haydn et Mozart, la liberté absente, celle des années de guerre qui inspire en creux l'œuvre du Hongrois Bartok. Haydn, l'esprit libre, Bartok, la renaissance et Mozart, le retour aux sources. Voilà le projet de cet ultime enregistrement des Modigliani. Alors, pour gagner ce disque, comme chaque matin, il vous suffit de répondre correctement à la question que je vais vous poser en nous écrivant via l'onglet Contactez-nous sur la page de l'émission Musique Matin. Vous allez sur francemusique.fr, puis Programme, puis Musique Matin. Et vous n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question. Bartok est souvent considéré comme l'un des premiers ethnomusicologues de l'histoire, ayant passé une grande partie de sa vie à collecter des chants populaires de son pays d'origine. Avec quel ami compositeur pratiquait-il ses recherches ethnomusicologiques? Gheorghi Ligeti, Gheorghi Kurtag ou Zoltán Kodály? Avec quel ami compositeur Bartok pratiquait-il ses recherches ethnomusicologiques? Est-ce qu'il s'agit de Gheorghi Ligeti, de Gheorghi Kurtag ou de Zoltán Kodály? C'est à vous de jouer. Vous avez jusqu'à 8h50, l'heure où Florian Henault plongera pour le tirage au sort sa main innocente parmi vos noms. Thank you. Le final du 19e Quatuor en Do majeur, l'opus 10, numéro 6, le Quatuor Les Dissonances de Mozart, interprété par le Quatuor Modigliani. Cet extrait du disque qui est en jeu ce matin, un disque Bartok, Mozart et Haydn, le père du Quatuor, le Quatuor Modigliani qui sera en concert demain, le 24 juillet, au Festival de Saint-Paul-de-Vence, dont il assure d'ailleurs la direction artistique. Ce sera un programme Ravel et Schubert, avec notamment La jeune fille et la mort. Vous pouvez continuer à nous écrire et à jouer jusqu'à 8h50, je vous le rappelle.
Jazzine Marciac.
Il fallait qu'on y soit.
Et vous aussi.
Il fallait qu'on aille applaudir Brad Meldo,
Yun Sunna,
Eric Truffa,
Roberto Fonseca,
Gonzalo Rubalcaba,
Michel Portal, Ibrahim Malouf.
Ça se passe du 27 juillet au 4 août.
Et c'est à 20h jusqu'à plus d'heure. 3 concerts chaque soir.
Sur France Musique et francemusique.fr. Vous venez.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux. Il est 8h. Et tout de suite, c'est l'heure du journal avec Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. L'Assemblée vote en première lecture le nouveau projet de loi anti-Covid. Si l'obligation vaccinale étendue aux soignants, sapeurs-pompiers ou encore professionnels auprès des personnes âgées fait à peu près consensus, ce n'est pas le cas de l'extension du pass sanitaire prévu pour début août, notamment dans les cafés-restaurants. Avec près de 1200 amendements déposés, les débats ont été tout sauf apaisés. Mais au final, le projet du gouvernement passe une première étape. Victoria Coussin.
Ça y est, après une nuit blanche de débats enflammés, l'Assemblée nationale s'est vidée en une poignée de minutes. Le projet de loi sanitaire adopté en première lecture par les députés, 117 voix pour, 86 contre. Et il y a eu un rebondissement juste avant le vote, retour en arrière. Il faudra finalement le pass sanitaire pour entrer dans un établissement de santé, hôpital ou EHPAD. Des députés de la majorité sont revenus à la dernière minute voter un nouvel amendement du gouvernement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'explique.
Il faut un pass sanitaire pour aller au resto, mais il ne faut pas de pass sanitaire pour aller à l'hosto. Ce qui est totalement contradictoire avec l'esprit même du pass sanitaire, qui consiste, je dis le mot plusieurs fois au cours de l'examen du texte, à faire des établissements où les personnes âgées, ou les personnes fragiles, ou les personnes malades résident, des sanctuaires éloigné du Covid.
Un revirement qui électrise encore plus les tout derniers échanges dans l'hémicycle après l'étude de 13 articles. Amendement par amendement, seul le premier est finalement légèrement modifié. Les fraudeurs ne risqueront pas 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende en cas de faux pass sanitaire. Le texte va maintenant pouvoir enfin arriver au Sénat.
Et ce, dès aujourd'hui, l'exécutif souhaite une adoption définitive d'ici la fin du week-end face à la remontée en flèche de l'épidémie en raison de la propagation du variant Delta. Près de 22 000 cas ont été recensés en 24 heures selon les derniers chiffres de Santé publique France, au plus haut depuis le 5 mai. Pour l'instant, les chiffres d'hospitalisation pour Covid sont toujours en baisse, moins de 7 000, dont moins de 900 en service de réanimation. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, craint malgré tout une situation très complexe à l'hôpital fin août. Écrasé par les rebondissements de cette crise sanitaire, le débat sur le projet de loi controversé de lutte contre le séparatisme touche à sa fin. Un ultime vote de l'Assemblée aujourd'hui vaudra adoption définitive. Il sera voté dans la foulée du projet de loi prévention d'actes de terrorisme et renseignement. Pour le gouvernement, les deux textes régaliens s'articulent comme une double lame face à la menace islamiste. Les défenseurs des libertés publiques dénoncent des nouvelles lois liberticides qui participent à l'emballement sécuritaire. L'EPR de Taishan sera-t-il bientôt mis à l'arrêt lors d'un conseil d'administration hier entre EDF et ses homologues chinois qui gèrent la centrale? Le groupe français a recommandé d'appuyer sur le bouton stop, Anne-Laure Barral.
Depuis plus d'un mois, l'EPR numéro 1 de Taishan a des fuites dans le cœur du réacteur. Des gaines métalliques qui entourent l'uranium ne sont plus étanches. Du coup, des gaz radioactifs se propagent dans l'eau. Ça peut arriver aussi dans nos centrales. Mais ce que EDF a expliqué à ses partenaires chinois lors du conseil d'administration, c'est qu'en France, nous ne laisserions pas traîner la situation. Vu les taux atteints, l'opérateur arrêterait sa centrale, vérifierait ce qui se passe, changerait ses gaines, ne serait-ce que pour éviter d'abîmer le réacteur ou d'exposer les travailleurs qui interviennent pour les travaux à des seuils de radioactivité trop élevé. Nous sommes en effet encore loin du risque d'explosion, mais pour qu'EDF communique publiquement la méthode à employer, plutôt que cela ne reste dans le huis clos du conseil d'administration, c'est qu'il y a de réelles inquiétudes pour l'outil industriel. La centrale de Taishan est en effet le seul endroit au monde où deux EPR sont en fonctionnement. C'est une vitrine importante pour EDF, qui espère pouvoir en construire d'autres en France, alors que celui de Flamanville n'a toujours pas démarré.
Un an de report, un contexte sanitaire compliqué, une fête du sport sans ambiance dans les stades. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo se déroulera dans une heure à huis clos, dans le contexte particulier d'un monde vivant sous la menace du Covid. Il y aura bien le défilé des 206 délégations rangées derrière pour la première fois deux porte-drapeaux, une femme et un homme, mais pas de foule pour les applaudir dans un stade olympique pouvant accueillir en temps normal 68 000 spectateurs. Il n'y aura pas non plus l'habituelle galerie de personnalités et dirigeants venus du monde entier, à l'exception d'Emmanuel Macron, arrivé ce matin. Le temps aujourd'hui orageux dès ce matin en Bretagne, des orages qui gagneront la Manche, puis en fin d'après-midi le centre-est. Cet épisode orageux devrait s'intensifier en soirée et dans la nuit, avec des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h, de la grêle et de fortes pluies. 14 départements de l'ouest et du centre sont en vigilance orange. Belles éclaircies sur le reste du pays et même grand ciel bleu dans le nord-est et le sud-est. Les températures 11 à 18 degrés ce matin sur la moitié nord, 17 à 22 au sud, 22 à 32 cet après-midi au nord. 24 à 38 au sud. France Musique, 8h05. Et c'est à vous, mon cher Clément.
Merci, Marilène Duvigneau, du Vivi pour les intimes. Bah oui, c'était le dernier aujourd'hui, puisque, hein, puisque vous êtes en vacances. Je vous soupçonne de prendre vos vacances juste au moment où le festival de Marciac démarre.
Mais bien sûr.
Que je crois que vous êtes une grande fan de jazz.
Oui, j'aime bien. Oui.
Bon, allez, encore un petit journal à midi. Et puis après, allez vous reposer, écouter plein de musique. Quant à nous, bah, on continue, puisqu'on n'est pas en vacances. On est ensemble jusqu'à 9h, avec à suivre le Tour de France des festivals, la direction le Val-de-Loire au festival La Clé des Portes, à 8h25, l'été des Frères Jacques. Et puis à 8h30, on sera en compagnie du compositeur Vladimir Kosma, qui sera présent au festival Mille et une notes en Limousin. Mais pour l'instant, je voudrais juste vous faire partager ce qui a été pour moi un des plus beaux disques de guitare de l'année, celui de Jérémy Jouve and Friends, paru sous le label Totem, un disque monographique de guitare chambriste, entièrement composé d'œuvres du guitariste Mathias Duplessis, où la guitare se retrouve dans toutes les configurations, en quatuor, en duo avec violoncelle de François Salk, avec la mandoline de Julien Martineau, ou encore avec le violon de Pierre Fouchéneret. C'est doux, c'est élégant, c'est fluide, ça coule comme un ruisseau de montagne sous le soleil de l'été. Un extrait, le premier mouvement du quatuor de guitare en ré mineur de Mathias Duplessis, c'était Jérémy Jouve and Friends à la guitare, c'est-à-dire Thibaut Garcia, Armen Donayan et Samuelito. C'est vraiment un très 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 beau disque de guitariste que ce disque Jérémy Jouve and Friends, un disque que je vous conseille et que je trouve parfaitement adapté à l'été. Voilà, c'est dit. Il est 8h11.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Et tout de suite, on prend la route du Tour de France des festivals. Et on prend la route direction le Val-de-Loire ce matin entre Mer et Talcy, au rendez-vous avec le festival La Clé des Portes qui commence ce soir et qui se poursuit jusqu'au 27 juillet. Un festival qui est co-dirigé par un des plus glamour couples du piano et du piano à quatre mains, c'est Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Bonjour Ludmila.
Bonjour Clément.
Alors avant de commencer, avant de parler du festival et du programme, dites-nous exactement où se déroule le festival La Clé des Portes, 9e édition.
Oui, donc festival c'est dans le département de Loire et Cher, c'est entre le Chambord et Blois, ça c'est plus facile pour nos festivaliers de s'orienter. Nous avons donc trois lieux, une église de la ville de Mer, une église de Château de Talcy, notre lieu emblématique, et puis le troisième lieu, c'est le Clos de Tilleul, c'est pas très loin de Talcy, c'est vraiment à deux pas, dans une grange où on va donner des concerts avec plus des artistes.
Donc c'est bien parce que on peut visiter les châteaux de la Loire dans la journée et puis terminer la journée avec de la musique au festival La Clé des Portes. Alors la 9e édition, vous l'avez intitulée, Ludmila Berlinskaya, I Got Rhythm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une édition uniquement consacrée au jazz cette année?
Non, bien sûr que non. Il y a aussi musique classique, mais oui, c'est fameux. Chanson de Gershwin. En fait, on a pensé avec Arthur que dans ce période un peu difficile pour tout le monde, il faut rendre un petit peu plus hommage aux énergies, aux joies et puis justement au jazz aussi. Donc, on va montrer toutes les palitres de rythme, commencer par Bach et terminer évidemment par le jazz et par la musique de nos jours jusqu'à Stravinsky ici, Shostakovich, pour montrer que le rythme ça existe dans toute la musique du monde.
Alors quels sont, est-ce qu'on peut dire quelques noms d'invités, de musiciens que vous avez invités à vous rejoindre? Parce que vous allez jouer bien sûr, Ludmila et Arthur, tous les deux, mais qui sera autour de vous?
Voilà, cette année il y a beaucoup de musiciens, donc je vais être rapide. Nous avons des magnifiques deux pianistes, Eric Lesage et Zarina Szymanskaya. Nous avons Marina Cish et Victor Diarnowski, les violonistes. Nous avons cinq chanteurs absolument magnifiques, Quintet Uranos, Adélaïde Ferrière et Aurélien Genou en percussion, Frédéric Rivoal en orgue, aussi que Chœur Gospel de Paris, et nous avons aussi un chef d'orchestre, Laurent Gossard, qui va diriger justement une demi-opéra, aussi que Denim et mise en scène de Jules
On pourra retrouver dans le détail, on pourra aller voir sur le site internet du festival pour retrouver évidemment tous les noms. Ludmila Berlinskaya, il y en aura aussi pour toutes les générations puisqu'il y aura des spectacles que vous avez conçus pour les jeunes et pour les enfants, notamment autour de Fables de Stravinsky, avec le soutien, j'ai vu ça dans le programme, de Marie Stravinsky qui est l'arrière-petite-fille du compositeur.
Exactement. En fait, c'était notre rêve depuis très longtemps de monter Le Renard de Stravinsky. C'est une œuvre quand même très bizarre, comme beaucoup des œuvres d'ailleurs chez Stravinsky, mais c'est très difficile à monter et pourtant ça dure seulement maximum 20 minutes. Et on ne sait pas, on ne sait toujours pas est-ce qu'il faut chanter et danser. Du coup, on a invité, je ne vous cache pas, deux mimes absolument extraordinaires. Et puis, on va monter cette pièce de Stravinsky, comme lui-même le disait, jouer et chanter. Oui, Et oui, Marie Stravinsky, petite fille, arrière-petite fille, qui était très, très heureuse que ça va être joué à notre festival. Aussi que deuxième œuvre dans cet concert. Et ça, c'est fait, la transcription est faite exprès pour notre festival cette année. C'est le mini-opéra de Shostakovich, le Sulite stupide. Shostakovich, pas sombre, pas Shostakovich de 15e quatuor et symphonie, mais Shostakovich pour les enfants et qui écrit aussi la musique pour les défunts.
Une dernière question, Ludmila Balinskaya. Ce festival, ce sera aussi l'occasion de fêter un bel anniversaire, les 10 ans de votre duo avec Arthur Ancel. Depuis 10 ans, vous abordez le répertoire à deux pianos et puis à quatre mains, mais surtout à deux pianos. Dites-moi, il y a encore des choses à découvrir ou vous avez tout joué en 10 ans?
Il y a énormément de choses. Le répertoire est énorme. Et justement, ce soir, on ouvre le festival avec notre concert. Nous avons deux invités comme surprise. C'est Stéphane Kelecki au contrebasse et Fabrice Moreau aux percussions. Et donc, on va terminer le concert avec le jazz.
Allez, vous nous avez donné envie de vous rejoindre à La Clé des Portes. Pour en savoir plus, il y a un site internet www.laclédesportes-festival.com et ça se passe de ce soir et jusqu'au 27 juillet à Mer et Talcy dans la belle région des Châteaux de la Loire. Merci Ludmila Berlinskaya.
Merci beaucoup.
Vous embrassez Arthur Ancel et on vous souhaite un très beau festival.
Merci.
Tempo de hard rock, c'est ce que dit la partition, c'est la pièce finale du Divertimento pour deux pianos de Richard Rodney Bennett. Et c'était Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel au piano. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 8h20, il est temps de découvrir l'affiche des concerts du jour. Alors aujourd'hui, deux concerts à suivre, et pas des moindres. D'abord à 16h, vous avez rendez-vous avec Christophe Dillis, qui vous proposera un concert du Quatuor Modigliani, dont le disque est en jeu d'ailleurs ce matin, jusqu'à 8h50. Un concert Haydn et Bartok, et puis à 20h, de 20h à minuit. Grande, grande soirée, vous devez être sur France Musique à partir de 20h. C'est un ordre, voilà, à 20h. Pourquoi ? Parce que Benjamin François sera en direct du Festival de Beaune, où Jérémy Rohrer dirigera la flûte enchantée de Mozart, avec une belle distribution. Matthew Newlin dans le rôle de Tamino, Marie-Éric Smoen en Pamina, Christina Pulizzi dans le rôle de la Reine de la Nuit, Riccardo Novaro en Papageno, le chœur de chambre de Namur, le Cercle de l'Harmonie, tout ce beau monde placé sous la direction de Jérémy Rohrer. C'est donc à suivre depuis Beaune à partir de 20h avec Benjamin François, le Cercle de l'Harmonie qui est bien entendu un des grands spécialistes de la musique de Mozart. Thank you. C'était le final de la 29e symphonie de Mozart, interprétée par le Cercle de l'Harmonie sous la direction de Jérémy Rohrer, qui sera donc ce soir en direct du Festival de Beaune pour diriger une nouvelle production de La Flûte Enchantée, à suivre en direct dès 20h avec le camarade Benjamin François.
C'est l'été sur France Musique.
Et tout de suite, c'est l'été des frères Jacques.
Et ben alors, qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que c'est beau ? La photographie, les souvenirs sur papier glacé électrisent.
Et en ce vendredi, qui devrait être un vendredi de forte circulation, mes pensées sont allées à des spécialistes de la route. Alors eux, ils sont dans la circulation toute l'année, du matin au soir et même la nuit. La route, c'est même leur bureau et leur métier. Et ce sont aussi nos meilleurs auditeurs, car ils passent des heures entières chaque jour au volant de leur voiture. Eux, ce sont les chauffeurs de taxi, ceux qui nous conduisent dans toutes les circonstances de nos vies, qu'on partage parfois avec eux dans l'anonymat de la brièveté d'un trajet. Les chauffeurs de taxi à qui Jacques Prévert avait consacré un poème où il imaginait le cauchemar de ces chauffeurs en proie aux dizaines d'adresses qui se mélangent dans leur tête la nuit. La chanson s'appelle « Le cauchemar du chauffeur de taxi ». La musique est de Joseph Kosma. Amis chauffeurs de taxi, si vous nous écoutez ce matin, cette chanson vous est dédiée sur France Musique. Les frères Jacques.
Un taxi s'arrête, des êtres humains descendent. L'un d'eux pèle le chauffeur.
Le chauffeur s'en va avec son taxi.
Un autre humain l'appelle, donne une adresse et monte. Le taxi repart 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire. Il la garde juste le temps qu'il faut, mais c'est tout de même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir,
des milliers et des milliers d'adresses
arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan du métropolitain. Alors il prend sa tête entre ses mains. Alors il prend sa tête entre ses mains et il se plaint tout doucement.
222 rue de Vaugirard, 33 rue de Ménilmontant,
Grand Palais. Gare Saint-Lazare,
Grand Palais, Gare Saint-Lazare, Grand Palais, Gare Saint-Lazare, Grand Palais, Saint-Lazare, Grand Palais, Gare Saint-Lazare, rue du dernier des Mohicans, place du colonel Rochonneau,
avenue du gros barbu, du gros barbu,
boulevard des trois idiots.
Taxi, 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 taxi,
taxi pour la sortie, taxi pour le Grand Prix. Taxi pour le passe-fesse, taxi pour la comtesse, taxi pour le cocktail, taxi pour les affaires, taxi pour la grande guerre, taxi, 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 taxi pour le cimetière.
Une petite chanson des frères Jacques ce matin à offrir à nos amis les chauffeurs de taxi qui nous écoutent tout au long de la journée. On les embrasse, le cauchemar du chauffeur de taxi, une chanson de Jacques Prévert et de Joseph Kosma, interprétée par les frères Jacques. Alors je peux vous dire que hier, j'ai découvert de nouveaux albums que je ne connaissais pas encore des frères Jacques. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus la semaine prochaine. J'ai encore mis la main sur quelques pépites qui devraient être pas mal, notamment des chansons encore de Rissé Barrié. Ça, c'est vraiment un chansonnier que je connaissais un petit peu. Je me demande même si, allez, l'été prochain, on fera pas une série autour de Rissé Barrié. De Bernard Leloup, qui avait le sens en plus du jeu de mots, mais je ne vous en dis pas plus. On jouera avec la mythologie la semaine prochaine. Il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Bonjour Vladimir Kosma.
Bonjour Clément Lanchois.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être là avec nous ce matin sur France Musique pour évoquer un très beau concert que vous allez donner ce soir dans le cadre du festival Mille et Une Notes en Limousin. Ce sera au parc du Mazot à Saint-Priest-Thorion. Un concert qui va rassembler quelques-unes de vos plus grandes musiques de films. Un concert qui sera précédé aussi d'une relecture en avant-concert par deux pianistes de certaines de vos musiques, Nicolas Horvat et Laurent Coulondre. Mais avant de parler de ce festival, Vladimir Kosma, le 14 juillet dernier, un chœur de 132 jeunes a interprété en clôture du défilé du 14 juillet, place de la Concorde, l'hymne de la vie. C'était face au président Emmanuel Macron. C'est une chanson qui avait servi de générique au dessin animé Les Mondes Engloutis dans les années 80, que vous avez composé, Vladimir Kosma. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre votre musique au programme officiel des cérémonies de notre fête nationale?
Bah écoutez, j'étais très ému, je dois le dire, surtout que j'étais pas prévenu et je l'ai découverte comme ça en direct. Et ça m'a fait chaud au cœur.
Ça, c'est quand même la preuve que vous écrivez, que vous avez toujours écrit une musique qui rassemble, Vladimir Cosma.
Oui, enfin, j'ai écrit une musique qu'on appelle populaire. Mm-hmm. Populaire, pour moi, c'est pas un terme péjoratif, c'est un terme noble. C'est-à-dire que pour moi, populaire, la cinquième de Beethoven, c'est populaire, ou la symphonie de Mozart, c'est populaire. Donc ça m'intéresse et je ne prends pas du tout ça comme une insulte, mais au contraire, comme un compliment.
Au contraire, c'est un compliment, une oui. musique qui relie les gens entre eux. Alors vous allez, on l'a dit tout à l'heure, vous allez diriger ce soir à Mille et Une Notes en Limousin, quelques-unes de vos plus grandes bandes originales. Je dis quelques-unes parce que vous en avez composé plus de 500, je crois. Alors j'imagine qu'on vous demande toujours les mêmes.
On me demande plus, en fait. C'est-à-dire que on me demande de faire des concerts et le programme, c'est moi qui le fais. Mais je sais que le public qui vient veut entendre forcément le Grand Blanc avec une chaussure noire, forcément le Rabbi Jacob, forcément la chèvre, la boum. Donc j'ai une espèce de choix assez limité parce qu'une fois que j'ai mis ces plus grands succès, j'ai rempli presque mon programme, mais je laisse la place pour quelques nouveautés.
Alors attention, il faut préciser aux auditeurs de France Musique que vous ne jouez pas exactement la version des films. Ce sont des musiques de films que vous avez complètement retravaillées systématiquement. Donc vous avez fait des suites, parfois des concertos
voilà,
aussi.
J'ai fait cette fois-ci, j'ai fait des orchestrations pour un orchestre de chambre de cordes. C'est-à-dire que c'est une réécriture complète, même par rapport à mes concerts que j'ai déjà donnés. On diminue l'effectif. C'est pas uniquement pour des raisons commerciales ou comptables. C'est aussi une autre façon de voir la musique. Vous savez, souvent pour les films, je l'ai enregistré avec des formations plus restreintes que celle que je fais pour donner des concerts où j'ai développé beaucoup les musiques au niveau de la durée et tout ça, du développement. Alors que cette fois-ci, je suis resté plus proche de ce que les gens connaissent dans la bande originale du film.
De toute façon, finalement, on pourrait résumer en disant que vous ne faites ni plus ni moins que comme faisait déjà Monteverdi à l'époque, quand on jouait d'une église à une autre, d'une salle à une autre, on adaptait son effectif à la musique, hein, tout simplement.
Exactement.
Alors on va peut-être commencer, nous, à écouter aussi ensemble ce matin un des extraits, vous l'avez dit, celui qu'on vous demande tout le temps, c'est bien sûr Rabbi Jacob, la musique de ce film de Gérard Houry. Quel souvenir gardez-vous de ce film, du travail avec Louis de Funès?
Je garde d'abord un souvenir extraordinaire parce que toute ma jeunesse, j'ai rêvé de Louis de Funès, même en Roumanie. Alors, le jour où j'ai eu l'occasion de faire ma première musique pour de Funès, c'était le Rabbi Jacob. J'étais très fier et très désireux de le servir comme il fallait, quoi.
We'll be right back.
musique qui est mythique, tout simplement mythique. Le grand Rabbi, au tout début, c'est le générique du film Rabbi Jacob. C'est votre musique, Vladimir Kosma, que le public du festival Mille et Une Notes en Limousin pourra réentendre ce soir. Moi, j'ai envie de vous demander comment ça se passait, le travail pour le cinéma. Est-ce que vous assistiez au tournage de certaines scènes? Est-ce qu'on vous envoyait des images? Est-ce que vous écriviez par-dessus l'image? Ou est-ce que parfois vous écriviez sans avoir vu le montage, les scènes?
Écoutez, dans tout ce que vous avez énuméré là, tout est vrai. C'est-à-dire que parfois je vois des images, parfois je ne vois pas, parfois je lis le scénario, parfois je parle avec... Mais souvent, j'écris des musiques avant le tournage, notamment dans le Rabbi Jacob. Il fallait écrire la célèbre danse que De Funès allait danser. Donc j'étais engagé d'abord en faisant un enregistrement de cette danse qui était une espèce de galop d'essai pour savoir si je vais être engagé ou pas pour le film. Donc c'était fait avant que le tournage soit fait, puisque un jour on m'a appelé pour me dire voilà, vous voulez rencontrer Gérard Loury, bon, Gérard, sur le tournage du film qui était en train de se faire, et il m'a dit dans un mois je tourne une des scènes mythiques les plus importantes du film, qui va être la danse de Funès. Il faut que j'aie une musique pour qu'il puisse danser sur sur cette musique. Donc j'ai fait la musique et ça a été accepté, et De Funès a dansé en playback sur cette musique après avoir répété avec lui pendant un mois chez moi à la maison.
Est-ce que vous allez toujours au cinéma aujourd'hui, Vladimir Kosma?
Non, j'ai jamais été grand client de cinéma. J'allais au cinéma uniquement pour les musiques. C'est-à-dire quand on me disait, il y a tel film où il y a une musique intéressante, j'y allais. Mais sinon, je préfère les concerts ou les livres. Je vais pour un intérêt professionnel.
Quel film est peut-être votre meilleur souvenir de travail, pour lequel vous êtes le plus amusé, pour lequel vous avez pris le plus de plaisir à composer la musique?
Disons que je dirais d'emblée que le cinéaste qui m'a donné le plus de plaisir à travailler avec, et donc sur ses films, c'était Yves Robert, qui m'a donné la chance de faire sa première musique, ma première musique de film, qui était Alexandre le Bienheureux. Et ensuite, j'ai fait tous ses films jusqu'au moment où il a arrêté de tourner. Donc, chaque fois, c'était un enchantement de collaboration, parce qu'il était très musicien. Il n'était pas uniquement cinéaste. Il avait un regard sur la musique pertinent. Et voilà, c'était quelque chose. Il m'a beaucoup appris dans la façon de faire de la musique pour le film, et tout en me disant de ne pas faire de musique de film. Donc je peux vous parler de La gloire de mon père, Château de ma mère, qui sont des films dont il a fait la mise en scène et que j'ai énormément aimé travailler avec, ou Un éléphant sa trompe, etc.
Alors Le Château de ma mère, La gloire de mon père, ce sont des musiques qui sont justement au programme de votre concert ce soir au festival Mille et Une Notes en Limousin. Mais vous savez, il faut dire la vérité aux auditeurs, on prépare ces interviews chacun de son côté. Je ne savais pas que vous alliez me parler spécifiquement d'Alexandre le Bienheureux, et c'est la musique que j'avais choisi de faire entendre maintenant, même si celle-ci n'est pas au programme du concert ce soir en tout cas, parce que c'est une musique que j'aime beaucoup personnellement. C'est celle effectivement qui vous a lancé, et elle est idéale pour tous ceux qui nous écoutent au lit ce matin et qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, envie de se lever. Alors ça, vous voyez, Vladimir Cosma, pour moi, c'est vraiment la musique de l'oisiveté par excellence. La musique d'Alexandre le Bienheureux, L'homme et son chien, plus précisément. Une musique que vous avez dirigée, comme toutes les musiques de films que vous avez composées aussi. Vous avez toujours voulu être compositeur. Vous, dès le départ, dès l'enfance, c'était compositeur spécifiquement ou musicien ?
Écoutez, j'ai commencé très tôt. C'est-à-dire que mon père m'a amené un violon à la maison vers les 5 ans. Pourquoi un violon ? Parce qu'on avait un appartement très petit. C'était pendant la guerre.
Ça, c'était en Roumanie. Hein.
Oui, en Roumanie, voilà. Et il n'y avait pas la place d'un piano. Donc, il m'a amené ce violon qui, le temps que le piano arrive, j'avais déjà 13 ans, j'étais devenu violoniste. Je donnais déjà des concerts à 8 ans, concerto de Bach, accompagné par mon père au piano ou d'autres pièces. Mais j'avais toujours le désir de la musique, de la grande musique, de la composition musicale. Mais le violon n'est pas un instrument très, très propice à la composition parce qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de possibilité. Donc j'ai réellement commencé à composer le jour où j'ai eu ce piano. Là, on a changé d'appartement et il y a un piano qui est arrivé vers les 13 ans et je me suis jeté dessus. Et en continuant le violon, qui était mon instrument de base, j'ai commencé à composer.
Vous êtes, vous êtes arrivé en France en 1962, ensuite, et là vous avez eu la chance d'étudier auprès de Nadia Boulanger. Tous les grands compositeurs du XXe, français et étrangers, américains en particulier, ont travaillé avec elle. Est-ce que quand vous vous êtes présenté devant elle, est-ce que vous aviez déjà, j'allais dire, votre patte musicale, votre style musical, ou bien est-ce que c'est venu plus tard avec les films ?
Non, curieusement, j'avais mon style. Je l'ai vu sur la recommandation de mon professeur de Roumanie qui m'a envoyé avec une lettre chez elle. Et elle m'a accepté comme élève. J'ai même habité plusieurs mois dans une chambre de service de rue Ballu où elle avait un appartement. Et par la suite, pour gagner ma vie, j'ai commencé à composer des pièces qui étaient plutôt dodécaphoniques, plutôt musique sérielle, contemporaine, etc. Bon, pour les présenter à des concours internationaux et autres, parce qu'à l'époque, si vous ne faisiez pas de la musique de ce type-là, si vous faisiez de la musique tonale, vous étiez un paria, quoi. Vous n'étiez pas dans la ligne de ceux qui ont une chance d'être acceptés, même dans les concours internationaux. Donc un jour, elle a entendu ce que j'ai fait. Elle me dit, mais pourquoi vous faites de la musique comme ça ? J'ai dit, mademoiselle, c'est parce que je dois gagner ma vie. Et elle m'a dit, oui, je comprends. Mais n'oubliez jamais d'où vous venez et qui vous êtes. Et les pièces que vous m'avez jouées en venant me voir, c'est ça qui constitue votre originalité. Et ne perdez pas ça, parce que de la musique dite contemporaine, moderne, comme ça, il y en a beaucoup qui peuvent faire. Tandis que ce que vous m'avez montré quand vous êtes venu chez moi la première fois, il y en a très peu. Et c'est ça qui est votre force.
C'était vraiment ça la personnalité de Nadia Boulanger, hein, de savoir repérer à l'intérieur de ses élèves quelle était leur vraie personnalité profonde. Beaucoup plus récemment, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, il y a eu cette rencontre avec le mandoliniste Vincent Baird-Demandeur, qui a suscité de nouvelles pièces, pas nécessairement cinématographiques d'ailleurs. Vous lui avez composé 24 caprices, dont certains, je crois, sont comme des clins d'œil ou des arrangements à certaines musiques de films. Mais surtout, vous lui avez écrit un concerto
pour mandoline,
qui sera d'ailleurs au programme du concert de ce soir.
Exactement.
À 1001 notes en Limousin. Ça s'appelle le concerto Méditerranéo. Alors c'est quoi ? C'est un clin d'œil aux origines napolitaines de la mandoline ?
Oui, en quelque sorte. Une allusion à la musique méditerranéenne et que j'aime beaucoup. À Marseille, j'ai écrit beaucoup de musique inspirée par la littérature de Marseille, par Marcel Pagnol, La gloire de mon père, Château de ma mère, la trilogie marseillaise, l'opéra, Marius et Fanny. Mmh. Et dans cette lignée d'inspiration méditerranéenne qui m'a beaucoup attiré.
Thank you.
Un extrait du final de votre concerto Méditerranéo, Vladimir Cosma, avec Vincent Berdemander à la mandoline. Mais ici, un arrangement, on va dire une réduction de l'orchestre pour l'accordéon de Grégory Daltin. Votre arrangement de ce concerto. Vladimir Cosma, si vous aviez la possibilité d'écrire une œuvre, allez, on va dire, en totale liberté, sans commande, sans film, sans musicien, juste pour vous, ce serait quoi ?
Ça serait rien du tout. C'est-à-dire que, vous savez, le fait que j'ai continué à faire de la musique et que j'ai composé, c'est très difficile de composer. Vous voyez, il faut sortir de soi quelque chose qui n'existe pas et qu'on invente. Bon, que les gens me demandent de faire telle musique, une musique de film ou une musique de concert ou quoi que ce soit, c'est pour moi un moteur indispensable.
Moi, je voulais vous poser une question sur Paris, parce que finalement, depuis votre arrivée en 1962, vous n'avez jamais quitté Paris, cette ville où votre père aurait rêvé de vivre, en quittant lui aussi sa Roumanie natale. Paris qui a beaucoup changé depuis ces années-là. Est-ce qu'il vous arrive de regretter le vieux Paris, celui des années 60, 70 ?
Ah oui, je n'arrête pas de le regretter d'abord sur le plan musical, sur le plan musical, sur le plan de la vie, sur le plan des gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire que c'est peut-être un regret de vieux qui regrette sa jeunesse, etc. Mais je regrette les cafés qu'il y avait où j'allais au coin de chez moi, je mangeais sans problème des huîtres, des choses qui étaient toujours très très bonnes. Les gens étaient différents. Oui, je regrette
et
ça.
Et pourquoi sur le plan musical, qu'est-ce qu'elle avait de différent ?
Ben, la vie musicale, sur le plan de la musique, notamment de variété, était à un autre niveau. Vous aviez Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Léo Ferré, Édith Piaf. Enfin, ce sont des valeurs qu'on est loin d'avoir aujourd'hui. On peut citer des noms de bons chanteurs, des gens qui font leur métier, mais ceci semble un rêve, quoi, semble quelque chose qui est inaccessible aujourd'hui.
Merci beaucoup Vladimir Cosma d'être venu nous voir ce matin sur France Musique. On va vous souhaiter un bon voyage. On va préciser de nouveau qu'on vous retrouve ce soir au festival Mille et Une Notes en Limousin dans ce programme de musique de film, mais pas seulement. Il y aura aussi donc ce concerto Méditerranéo avec Vincent Berdemander. Et puis si on en veut encore plus, on pourra vous retrouver à la rentrée les 15, 16 et 17 octobre. Alors là, avec grand orchestre, ce sera au Grand Rex à Paris. Eh bien, on va se quitter, si vous voulez bien, avec une musique que moi j'ai choisie cette fois, parce que je l'aime bien. C'est le boogie rock final du film Le plus beau métier du monde.
Écoutez, c'est original, parce que c'est pas souvent qu'on le programme. Mais merci de m'avoir accueilli, cher Clément Rochefort. Et puis, j'espère à bientôt, peut-être avant les concerts de Paris.
Mais j'espère, moi aussi. On vous souhaite un très bel été, Vladimir Cosma.
Le Radies Boogie Rock Final, cet extrait du plus beau métier du monde, la musique, et de Vladimir Kosma. Et je crois qu'on a pu déjà s'en rendre compte, mais tous ceux qui connaissent ces musiques le savent, c'est vraiment une éponge à style, Vladimir Kosma. Il a toujours été capable de composer dans tous les styles possibles, du tango, du reggae, enfin tout. C'est ça, le génie de Vladimir Kosma. Et bien voilà, Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine. Il est temps de découvrir le nom de nos gagnants du jour. Qui va repartir, ou plutôt qui va recevoir chez lui le disque du Quatuor Modigliani? C'est Geneviève Verdier de Brissac, Loire-Aubance, dans le Maine-et-Loire, Françoise Donadil de Grenoble et Daniel Heiligenstein de Neuvecelle en Haute-Savoie. Bravo à tous les trois. Alors la réponse de la question du jour, c'était qui accompagnait Béla Bartók dans ses aventures ethnomusicologiques? C'était Zoltán Kodály. Il avait rencontré Bartók à l'Académie de musique de Budapest. Avec lui, il a recueilli sur des rouleaux de cire, édité et publié nombre de chants traditionnels nationaux. Il avait même passé, en 1906, une thèse de doctorat en ethnomusicologie consacrée à la structure strophique dans le chant traditionnel hongrois. Si ça, ça impressionne pas, alors moi je ne sais pas quoi. France Musique, ça continue bien sûr, la journée ne fait que démarrer dans quelques instants à 9h. On retrouve Édouard Niqueux pour l'été classique, bonjour.
Bonjour Clément.
Alors est-ce que pour cette dernière jour de la semaine, vous nous avez proposé une programmation ni queue ni tête? Il fallait bien que je vous la fasse quand même.
Oui. Je m'y attendais un peu.
Ben oui.
Eh ben écoutez, aujourd'hui on va prendre le large, on va s'évader un peu par-delà les montagnes, forêts, fjords. Et pour The Last One, on va écouter Pert, Stravinsky, Glass, Messiaen, Britten. On est très 20e ce matin.
Ah ouais, puis ça va être très rafraîchissant, je pense, comme programmation. À tout à l'heure, Édouard. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve lundi, dès 7h30. On sera de nouveau avec un compositeur de musique de film, d'ailleurs, puisque j'aurai le plaisir de recevoir à 8h30 Mathieu Lambollet. Mathieu Lambollet, c'est un jeune compositeur très talentueux qui a signé, entre autres, la musique de la série Lupin, qui passe sur Netflix en ce moment. La deuxième saison vient de sortir. Merci à toute l'équipe de Musique Matin, Marjolaine Portier-Kaltenbach et Florian Henault, à qui je souhaite de bonnes vacances. La Vénarde, elle part crapahuter dans les montagnes. On l'embrasse, on lui fait plein de bisous. N'oublie pas ta crème solaire quand même. Merci à Déborah Dagobert et à Swat Boukorsa, la technique. Merci à Taïsia Froidure qui a réalisé cette émission. Eh bien, je vous souhaite un très bon week-end sur France Musique. Je vous dis à lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.